l'hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers.
Bonjour et bienvenue sur Radio Immo, nous sommes en direct à 11h pour ce nouvel épisode de l'Hebdo des Régions, notre émission en partenariat avec la FPI. C'est l'occasion de recueillir les retours d'expérience d'élus et d'adhérents FPI en région. Au programme, le mot du président de région, l'édito de Christophe Bordet et enfin le débat avec nos invités du jour. Aujourd'hui, nous partons dans une bien jolie région, en Bretagne. Pour ce faire, qui nous accompagnera sur ce plateau, cher Christophe ?
Eh bien écoutez, nous sommes avec Nicolas Verpeau, président de la FPI Bretagne, directeur régional de Bouygues Immobilier. Bonjour et bienvenue, évidemment, sur Radio Immo. Et puis Nolwenn Lam Kermarec, présidente de Kermarec Promotion, présidente d'Oréal également, l'Observatoire du logement neuf en Bretagne, qui est avec nous à distance depuis une Bretagne très ensoleillée aujourd'hui. Bonjour à vous et merci d'être là.
Bonjour.
Alors, on a un pardonnez-moi, je vous ai coupé, Nolwenn. Bonjour donc à tous, ravi de vous accueillir sur ce plateau. On a un programme assez chargé aujourd'hui, donc on va essayer de démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant tout, un petit mot de notre président de région sur la fonction présentation de la FPI régionale. Nous rappeler un peu ce que vous faites dans le cadre de ce rôle.
Alors en effet, je suis président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Bretagne depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai rempilé pour un mandat tout récemment. Et c'est une fédération qui n'est pas énorme en nombre d'adhérents, qui est bien mobilisée en revanche. Nous sommes 33 ou 34 adhérents à date, qui sont des promoteurs de tout type, de taille, de tout territoire, qui interviennent sur tout le territoire breton. Et notre rôle à la fédération, c'est évidemment de représenter tous ces adhérents et la profession. On avait tendance à une époque à dire défendre les intérêts de la profession, mais je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut un peu dépasser, puisqu'il s'agit surtout aujourd'hui de proposer, d'être constructif, d'influer sur les décisions qui sont prises par les collectivités, les dirigeants et les différentes instances qui tournent autour de notre métier. Et de participer activement à ça plus que de camper sur nos positions, c'est un temps qui est révolu. Voilà.
Eh bien écoutez, on a bien compris. On imagine qu'une fonction comme celle-là, en dehors de vos activités de directeur régional de Bouygues Immobilier, c'est assez chronophage, non ?
Alors c'est chronophage, mais c'est en même temps passionnant, très intéressant de pouvoir travailler sur l'intérêt général et puis regarder l'activité sous un prisme qui n'est pas forcément celui de son groupe ou de sa société, puisque en effet la fédération, comme je le disais, a la particularité de comporter un nombre de promoteurs importants et beaucoup de promoteurs indépendants, régionaux. Donc pouvoir les représenter, moi en tant que représentant d'un groupe national, pouvoir être le représentant au sein de la fédération, moi j'y trouve un intérêt intellectuel quotidien.
Eh bien, écoutez, c'est tout à votre honneur. Je propose, Christophe, de passer à votre édito. C'est l'heure, vous avez des choses à nous dire, semble-t-il, sur les Bretons. On vous écoute.
L'hebdo des régions, avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Ah, bah oui. Ah, la Bretagne, ah, les Bretons, ah, leur régionalisme. Jusque-là, nous connaissions les Bretons bretonnants, indépendantistes déclarés. Mais nous n'avions pas vu venir, au milieu de tous ces menhirs et autres forêts emplies de légendes, les Verts. Oui, les Verts, les amis de notre Charlotte nationale, les écologistes. Oui, les écologistes, mais bretons. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous apprenâmes, il y a quelques jours, que des écolos bretons souhaitait interdire les achats immobiliers aux non-résidents, du moins à ceux qui n'habitent pas sur place depuis au moins 1 an. Moi je vous dis, on n'est plus en Bretagne, on est en Corse. Je ne suis pas sûr d'avoir bien fait l'accent corse, mais c'est pas grave. 600 000 personnes sur une population totale de 3,3 millions de personnes en Bretagne, selon l'INSEE, qui pourraient être relogées grâce à cette proposition peut-être un peu farfelue. En Bretagne, 13% des logements sont des résidences secondaires, selon l'INSEE. C'est 3 points de plus que pour la France métropolitaine et 5 de plus quand même que pour la France hors Mayotte.
Surtout, en près de 30 ans, le nombre s'est envolé de près de 38% pour avoisiner les 255 000. Une hausse deux fois plus élevée que celle de la population de la région sur la même période. En revanche, les prix, après avoir grimpé de 20% ces 5 dernières années, se sont calmés un petit peu depuis, plus 5% en 2 ans, plus 1,8% en un an, selon Meilleur Agent. Alors, pourquoi ce coup de chaud des écologistes autonomistes ? Sans doute parce que ces derniers mois, on l'a beaucoup entendu avec la pandémie et les confinements, il n'y a plus rien à acheter en Bretagne. Tout a été vendu ou presque. Parisiens, Rennais achètent, oui, à tour de bras. Moi, je voudrais juste vous dire une toute petite chose, chers amis bretons. On vous aime et de grâce, laissez-nous devenir bretons, nous aussi.
Merci Christophe pour cet édito, merci pour ce petit clin d'œil que vous m'avez fait, c'est charmant.
Mais oui, mais je sais que vous aimez ça.
Mais comment peut-on être autre chose que pour sa planète, celle qui nous nourrit ? C'est un
mais
autre débat.
Mais tout à fait, tout à fait. Hein ?
Qu'avez-vous pensé, Nicolas Verpo, de ce petit édito ?
En tout cas, la petite musique était en effet de circonstance. Et cet édito reflète en effet une situation dont on va parler de toute façon dans quelques minutes. Sur un sentiment un peu contradictoire, des injonctions contradictoires qui nous entourent entre la nécessité de rester dynamique, d'accueillir, et puis la volonté de fermer les portes derrière soi. Donc c'est ce qu'on a ressenti un petit peu à travers vos propos. Mmh. Et puis la tendance verte, bah, évidemment, on la ressent tous, plus ou moins selon les territoires. C'est un peu moins marqué en Bretagne. On en reparlera également lors du débat.
Eh bien, écoutez, je vais quand même interroger Nolwenn avant de passer à ce fameux débat sur ce qu'elle a pensé de ce petit édito breton. Nolwenn, vous nous entendez ?
Oui, bah écoutez, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une région très très attractive. Alors les Bretons sont un peu chevins et je m'appelle pas Nolwenn par hasard, donc on le dit pas trop fort, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'atouts en Bretagne et on n'est pas surpris de voir que effectivement avec l'année en plus que l'on a passé, l'attractivité du territoire et de ses bords de mer soit effectivement plébiscitée.
Mais c'est vrai que vous avez une magnifique région. Je trouve qu'elle a été à tort pendant pas mal d'années. Enfin, on a dit en Bretagne, il pleut. En Bretagne, la Bretagne, c'est un peu morose. Bah,
c'est-à-dire, on pensait toujours aux élevages de porcs qui polluaient tout, etc. Bon, il n'y a pas que ça en Bretagne,
heureusement.
Mais la
Bretagne est magnifique. Bon. Et je pense que vous avez su préserver aussi cette intimité. Mais ce n'est plus un secret, puisque si on interroge la plupart des Parisiens, ils vont se dire, mais la Bretagne, c'est merveilleux.
Est-ce que c'est le temps qui, finalement, aura permis de préserver la Bretagne au final ? C'est peut-être ça.
Peut-être. Alors, je vous propose de lancer le débat juste après ce jingle.
L'hebdo des régions, avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Retour sur le plateau de l'hebdo des régions, en présence de Nicolas Verpo et de Nolwenn Lam-Karmarek. Donc, on a deux gros sujets aujourd'hui, Nicolas. Le droit à construire et le Pinel breton. On démarre par le droit à construire ?
Oui, sachant qu'ils sont évidemment étroitement liés.
Liés, bien sûr.
On le comprendra à la fin de cet échange.
Alors peut-être commençons par, peut-être un peu jauger, comment se comporte le marché aujourd'hui ?
Le marché se comporte évidemment très bien. En tout cas, il y a beaucoup de demandes et on est face à une situation qui est insolite et qui est préoccupante parce qu'on a une demande qui est historiquement forte. Et on a, par rapport à cette demande, une offre qui est au plus bas. Et de toute façon, un marché qui ne répond pas aux attentes de ses clients, à un moment donné, c'est un marché qui dysfonctionne. Et donc, c'est justement toute la problématique auquel on est exposé. Et ça s'explique par différentes raisons. On a eu une longue période municipale qui a en plus été prolongée par la crise sanitaire. On a la crise sanitaire elle-même qui, à un moment donné, a généré de l'attentisme, qui a généré
des
retards, un arrêt tout simplement de bon nombre de choses. Après, on s'est très vite adapté et on a la chance, ce qu'il faut aussi se le dire quand même, d'être finalement une profession peu impactée par la crise sanitaire. Il y en a d'autres qui souffrent quand même nettement plus que nous. Donc, voilà.
Vous voulez dire dans l'immobilier ou de manière plus générale ?
Alors, de façon générale, l'immobilier et le bâtiment, sinon sur les deux premiers mois de la crise sanitaire qu'on a connue en mars dernier, globalement, le marché et la construction est resté dynamique et a finalement beaucoup moins souffert que d'autres secteurs de la crise sanitaire.
Une petite question. En Bretagne, aujourd'hui, au niveau du logement neuf, est-ce que vous avez évalué le nombre de logements manquants pour satisfaire la demande, justement ? Est-ce que vous avez des chiffres ?
Alors, pour ma part, je n'ai pas les chiffres en tête. Ce que je sais, c'est que, comme tout territoire en France, de toute façon, c'est une attente générale.
Problématique
c'est un problème
nationale.
Général, donc c'est un problème structurel. Il manque de logements en France et tout territoire se doit à un moment donné d'accueillir s'il veut rester dynamique, s'il veut continuer à se développer, à créer des équipements, à créer de la vie, tout simplement. Et toute la problématique est là, c'est de trouver un équilibre entre la production de logements pour répondre à cette demande et cette attente structurelle et en même temps trouver un équilibre avec toutes les considérations actuelles qu'on peut connaître.
Alors justement, j'aimerais qu'on interroge Nolwenn sur cette question, puisque Nolwenn, on le rappelle, vous êtes présidente de l'Observatoire Auréal, que vous pouvez peut-être nous présenter en quelques mots. Et ensuite, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une adéquation entre les chiffres et la réalité terrain par rapport à ce que vient de dire Nicolas ?
Alors, tout d'abord, pour vous présenter l'observatoire, donc Auréal est un observatoire du logement neuf. Nous sommes un peu plus de 100 adhérents aujourd'hui dans cet observatoire, donc que je préside effectivement, et qui observe à la fois l'activité de la promotion immobilière, mais également des lots à bâtir et des terrains aménagés. Voilà pour la présentation d'Auréal. Alors, c'est vrai que on évoquait les chiffres et notamment les logements autorisés en 2020. Pour faire un petit focus sur la France, on est effectivement en chute significative de 381 000 logements. C'est moins 15%. Or, on sait qu'il faut 500 000 logements. Alors, en Bretagne, on a un peu moins subi cet effet-là. Et effectivement, on parlera du dispositif Pinel Breton qui a permis de compenser quelque part cette chute drastique. Mais effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'on a une demande qui est forte et une offre qui est au plus bas depuis 5 ans. Donc on est à environ 3 500 logements seulement en stock actuellement. C'est trop peu. C'est beaucoup trop peu.
Eh bien, écoutez, le message, en tout cas, j'imagine que là, il est passé. Est-ce que vous avez le sentiment de subir, parce que vous en avez touché deux mots, des injonctions contradictoires ?
Ben, c'est tout à fait le cas. Et encore, on est sur une. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être un peu moins vécu des problèmes d'autorisation de construire, parce qu'on a affaire à des collectivités en Bretagne qui ont toujours été dans une dynamique de créer du logement, d'accueillir. Donc, à partir du moment où ces politiques générales sont maintenues, on se rend compte qu'on a finalement connu moins d'à-coups que d'autres territoires en France. Donc ça, c'est un élément qui est important. Toujours est-il que ces politiques et ces collectivités ils subissent la pression des habitants par rapport à ce que vous disiez dans votre édito. C'est cette volonté finalement de vivre en ville, cette volonté d'avoir accès à tous les services et puis en même temps de ne pas vouloir qu'on construise à côté de chez soi. On l'a aussi sur plein de choses. On a la volonté aussi d'arrêter de s'étendre et d'arrêter de construire, mais tout le monde veut sa maison. Comment on fait ? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on vive en collectif. On veut des espaces verts en ville, dégager de l'espace au sol, mais on ne veut pas qu'on monte. On veut vivre en ville, mais on veut personne surtout à côté de chez soi. Et s'il doit y avoir un immeuble, c'est surtout pas à côté de sa maison. Voilà, on vit en permanence ça. Alors, c'est une tendance sociétale. La démocratie participative est de plus en plus prégnante, on s'en rend compte. Et donc, on doit intégrer, nous, cette donnée dans notre façon de fonctionner. Donc, les promoteurs doivent, évidemment, comme toute la société d'ailleurs, les promoteurs, les collectivités qui poussent les projets urbains, etc., doivent s'adapter à cette situation, doivent répondre à cette problématique. Mais là aussi, il faut qu'à un moment donné, la puissance publique, au sens décisionnel, les collectivités locales, les élus locaux, prennent leurs responsabilités. Alors nous, encore une fois, on a la chance d'avoir des élus qui, globalement, continuent à les prendre, leurs responsabilités, mais on sent que ça devient de plus en plus compliqué.
Mais souvent, les élus locaux ne veulent pas aller contre, justement, leur population. C'est ça le problème. Et donc, il n'y a plus de décisions qui sont prises. Qu'on soit en période électorale ou pas, ça ne change rien.
Ben c'est un petit peu le problème, et là encore, je me répète, mais on a affaire à quand même à des, globalement, à des élus qui tiennent le cap. Mais on sent qu'ils ont besoin de nous demander de plus en plus de choses, et on le comprend d'ailleurs, parce qu'on a tous intérêt de construire plus vertueux. On se rend compte aussi qu'il y a un besoin d'information qui est évidemment plus fort, donc on s'organise pour ça. Mais il y a un moment où
il faut arriver à convaincre.
Il faut plus s'informer, il faut plus communiquer, il faut communiquer sur ce qu'on fait de bien, parce qu'on a tous progressé sur l'aspect environnemental, sur l'économie d'énergie, sur un certain nombre de choses. Et ça, il faut aussi qu'on le dise. Et puis, il faut qu'on mette en avant ce qu'on apporte à travers nos projets immobiliers. Et donc ça passe par l'information et la communication.
Moi j'avais une petite question réaction. On a sorti une information sur Radio Immo il y a quelques jours qui concerne pas votre région, qui concerne la ville de Bordeaux, avec cette décision prise en conseil municipal de dire on va passer de 4000 logements neufs par an à 3000. Bon, municipalité donc écologiste. Quand vous entendez ça, ça vous fait réagir de quelle manière? Parce que là, pour le coup, une décision est prise. Politique.
Oui, alors on sait qu'il y a des territoires qui ont pris des décisions qui sont pour le moins spectaculaires, et en effet on n'a pas eu à subir ces positions aussi strictes sur notre territoire. Je pense qu'à un moment c'est là aussi une question d'équilibre. Faut voir par rapport à l'attractivité qu'on a sur notre territoire, il faut calibrer l'offre en fonction de l'attractivité, du nombre de gens qu'on doit recevoir. Et se dire, à un moment, on ferme les portes et puis on ne reçoit plus personne. En général, les communes et les collectivités qui font ça, très rapidement, elles tombent, elles perdent en dynamisme, elles perdent en vie, elles vieillissent la plupart du temps. Bon, alors, est-ce que c'est le monde qu'on veut? Je ne suis pas sûr que ce soit durable.
C'est la décroissance.
Oui, c'est des positions de décroissance qui tiendront certainement quelques temps. Et puis, à un moment donné, la réalité va tous nous rattraper. Par contre, si à travers ça, on progresse et qu'on construit plus vertueux, qu'on progresse dans la façon de faire, et qu'en effet, on libère des espaces verts, qu'en effet, on tient compte de la biodiversité, qu'on baisse notre empreinte carbone, etc. Tout ça, c'est bien. Ça nous pousse quelque part dans nos retranchements. Mais on ne peut pas tomber dans la décroissance pure. C'est un système qui ne fonctionne pas.
Eh bien, écoutez, je pense encore une fois que le message est passé. Nolwenn, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point ?
Oui, enfin, il faut avoir à l'esprit que on pointe souvent du doigt, effectivement, la production de logements, mais cette production de logements libre, elle accompagne aussi la production de logements social. Ça veut dire que c'est tout un système que l'on serait en train de bloquer et de mettre effectivement sur le bord de la route déjà des personnes qui ont des difficultés à trouver des logements. Il faut qu'on reste dans un système qui soit vertueux, et on sait bien que tout marché qui est tendu d'abord à une tendance haussière et forcément ça renforce aussi l'exclusion. Donc ce n'est pas un bon calcul.
C'est le double effet qui se coule.
C'est ça.
Hein, ouais.
Eh bien justement, on va passer à notre problématique Pinel Breton, puisque l'émission avance et qu'il nous reste déjà moins de la moitié du temps pour aborder cette question. Le Pinel, déjà de base, permet de créer du logement abordable. Je pense que c'est essentiel de le rappeler par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Et j'aimerais, Nolwenn peut nous éclairer sur la spécificité de ce dispositif Pinel, puisque vous avez un Pinel breton.
Oui. Alors en fait, c'est une expérimentation. Donc il faut savoir que le dispositif est quasi équivalent au dispositif national. Par contre, l'expérimentation s'est faite vraiment en lien avec les collectivités, avec une volonté en fait de répartition des IRIS sur le territoire. Donc l'idée n'était pas d'ouvrir plus de droits à l'accès au dispositif Pinel, mais de le répartir en concertation avec les les élus et les collectivités sur des zones prioritaires à l'urbanisation. Donc ça, c'est très important.
Alors Nicolas, quel est l'historique de cette mise en œuvre de ce Pinel breton, puisque c'est quand même quelque chose que vous avez et que les autres régions n'ont pas?
Alors c'est quelque chose qui a été porté par une région au sens large, et évidemment par la fédération. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2018, fin 2017, je crois, on a eu la connaissance de l'arrêt du Pinel dans les zones B2. Or, la particularité de la Bretagne, c'est en dehors de Rennes et de Saint-Malo, qui sont des territoires de B1, toute la Bretagne occidentale se situe en B2. Donc on se retrouvait avec une particularité géographique qui faisait qu'on excluait finalement des villes comme Vannes, Lorient, Brest, qui est une métropole, on les excluait de ce dispositif. Et donc ce déséquilibre territorial, il avait des effets très, très, très délicat, parce que, un, il renforçait la pression foncière qu'on avait sur les quelques zones B1 qui se situaient sur Rennes et Saint-Malo, et quelque part, il ne permettait pas, il empêchait de répondre aux objectifs de construction de logements des autres territoires. C'est particulièrement prégnant sur ces territoires, compte tenu des dispositions et du tissu urbain, en fait, de la Bretagne. Donc, suite à cet arrêt qui a en effet été effectif à partir de mars 2019, mais qui a connu ses effets bien avant, puisque dès que l'annonce a été faite, que s'est-il passé? Les promoteurs ont arrêté, par manque de visibilité, de s'engager sur les projets sur ces territoires. Et immédiatement, les autorisations de construire ont baissé. On a perdu 37% de logements autorisés sur cette période. Et les mises en vente, elles, ont chuté brutalement de 70% sur l'année 2018. Donc on s'est retrouvé avec un territoire qui faisait quand même au moins 1600 logements par an à en produire quelques centaines.
On imagine que ce dispositif a dû faire l'objet de controverses.
Alors oui, parce que dispositif exceptionnel et expérimental. Par contre, il a été poussé par toute une région. Il a été suite à une promesse qui avait été faite par le chef de l'État sur ce droit à expérimenter. Donc la Bretagne s'est saisie de cette opportunité pour transformer ce dispositif. Et donc, comme le disait Nolwenn tout à l'heure, c'est un dispositif qui finalement a été territorialisé et ouvert sur certaines zones. Donc toutes les communes à peu près importantes de la Bretagne ont eu le droit à leur Pinel, mais sur des territoires réduits qui ont été décidés en concertation la plupart du temps entre les collectivités, nous-mêmes, au niveau du CRHH, donc de l'instance pilotée par la préfecture sur l'habitat en Bretagne. Donc des zones ont été définies et le Pinel breton a été, après de longues mises au point, a été effectif à partir du mois de mars 2020, puisque la préfète avait autorité pour délivrer un arrêté qui ouvrait le dispositif.
Donc lors du premier confinement, finalement.
Finalement, sur un temps relativement récent, puisque en effet mars 2020, en plein confinement, et puis sur une année de crise sanitaire. Donc,
est-ce que selon vous, ça a permis de compenser les effets de la crise ?
Alors, Nolwenn pourrait répondre, puisque on a quand même la particularité, du coup, en Bretagne et sur les territoires de B2, pour s'être comparé à d'autres territoires B2 en France, d'avoir une courbe qui n'est pas du tout dans le même sens, en termes de, notamment de mise en vente. Donc Nolwenn a en effet, à travers son observatoire, eu quelques éléments. Elle peut peut-être en parler.
Oui, on est effectivement en train de commencer à faire un bilan de cette expérimentation. Alors c'est vrai que le temps imparti n'est pas idéal, puisqu'on a eu cette crise sanitaire qui est arrivée à peu près au même moment. Pour autant, et malgré le manque de recul qu'on peut avoir, on constate qu'en zone B2, donc sur les secteurs qui ont été réouverts au dispositif Pinel en Bretagne, on est sur un accroissement des mises en vente. Donc ça a été extrêmement extrêmement prégnant, et on constate également que ça a permis, comme je vous le disais en introduction, de minimiser l'impact sur les autorisations de logement, parce que voilà, les opérateurs avaient de la visibilité, avaient cette confiance dans le dispositif, et donc ont pu continuer à travailler et à préparer des permis de construire. Et puis, on constate effectivement que si on regarde quelles ont été les ventes en 2020, finalement, 95% de ces ventes se sont faites sur un secteur Pinel, alors que ce soit effectivement sur le secteur B1 ou sur le secteur B2. On a un territoire très particulier et ce n'est pas juste pour dire on est les Bretons et on veut un dispositif différent, mais on a un maillage de notre territoire avec des communes qui sont très dynamiques. On parle de Vannes, on parle de Brest, qui est tout de même une métropole et qui n'avait pas le dispositif B1. On parle également de Lorient. Voilà, il y avait ce besoin et on se rend compte que ça a été vertueux, ça nous a permis de minimiser l'impact de la crise et de mieux réagir que le reste de la France.
Alors, c'est un dispositif expérimental, hein, nous l'avons bien compris. Vous avez a priori tout intérêt à ce qu'il soit reconduit. Quels sont, selon vous, je vous laisse répondre l'un ou l'autre, les risques liés à l'arrêt de cette expérimentation?
Alors, avant, je voudrais préciser une chose par rapport à ce qu'a dit Nolwenn. 95% des ventes se sont faites sur secteur Pinel. Ça ne veut pas dire que 95% étaient des investissements Pinel. Donc, ça génère également... Ouais. De l'accession à la propriété et ça génère aussi de la production de logement social. Il faut bien avoir en tête. C'est juste la localisation des programmes qui se sont vendus.
Qui se trouvent dans des zones.
Qui se trouvent être dans les zones. Et pourquoi aussi? Parce que finalement, la territorialisation qu'on a connue s'est faite aussi dans des zones où il y avait un intérêt à construire et où les collectivités avaient un intérêt à construire. Donc là aussi, ce qui serait intéressant, puisque les chiffres, on n'a pas énormément de recul, ce serait de recueillir les témoignages des élus qui, à un moment donné, ont disposé de ce dispositif. Pour savoir, eux, quelle expérience ils ont vécue et est-ce que ça leur a permis de faire déboucher leur projet qui leur tenait à cœur ou qui était important structurellement pour leur ville. Et je pense qu'on aura un avis assez unanime de ces élus sur l'efficacité du dispositif. Et pour répondre à votre question, le dispositif s'arrête comme c'est prévu pour l'instant, on va vivre les effets très tôt, dès maintenant, puisque de toute façon... À partir du moment où le dispositif s'arrête à la fin de l'année, les promoteurs vont arrêter de s'engager sur des nouveaux projets tant qu'ils n'y voient pas clair. Mmh. Donc ça veut dire que, même cause, mêmes effets, ce qui s'est passé en 2018 avec une baisse des mises en vente et une baisse de la production et des autorisations d'urbanisme, elle va se reproduire inévitablement. Donc c'est pour ça qu'il est urgent de se dire qu'on doit attendre des conclusions d'une expérimentation sur laquelle on a si peu de recul et qui en plus s'est passée sur une année de crise sanitaire. Ça ne me paraît pas possible.
Mais vous dites quoi, donc, pour être clair, au préfet et donc à l'État, au gouvernement, il faut absolument poursuivre tout ça. Il n'y a pas le choix, sinon le marché va s'effondrer.
Ben, au moment où on est sur une logique de plan de relance, quand on reprend tout ce qu'on s'est dit sur la difficulté de construire et sur le droit à construire qui est de plus en plus compliqué à obtenir, si on se passe d'un levier comme celui-là dans un moment pareil... on risque de créer finalement une rupture de quelque chose qui marche et qui continue à faire tourner l'économie. Donc qu'est-ce qu'on demande au préfet? C'est la prorogation, enfin au préfet, c'est pas au préfet en l'occurrence, c'est plutôt au gouvernement. Mmh. On demande de proroger le dispositif, au moins pour se donner plus de recul et éviter cette rupture. Et pour ça, il faut aussi se prononcer le plus tôt possible et ne pas attendre la loi de finances en fin d'année pour le dire, parce qu'autrement, de toute façon, on va créer un trou de 6 mois. Et ce trou, il aura un impact qui va mettre
direct
beaucoup plus
marché.
De temps à être,
résorbé. Et vous saurez quand?
Ah, justement, c'est bien le sujet. C'est que nous, vous l'avez compris, on pousse pour obtenir une réponse la plus rapide possible. On comprend la position d'État qui doivent attendre les conclusions du rapport que doit fournir la DREAL et les services de l'État. Maintenant, il est urgent d'agir. Et au moment où on se dit comment on va sortir de cette crise sanitaire et de la crise économique qui nous guette, je ne pense pas...
Plus la campagne présidentielle qui risque de ralentir encore les choses.
Plus la campagne présidentielle, je ne pense pas qu'on puisse se passer d'un levier comme celui-là à l'échelle d'une région. Surtout qu'en plus, il a des vertus, comme on l'a dit. Et puis, en termes d'impact financier, je pense que la balance est largement positive pour... pour la collectivité au sens large.
Eh bien, écoutez, on aura peut-être l'occasion d'en reparler l'année prochaine dans cette émission. On espère que vous obtiendrez gain de cause. En attendant, notre émission touche presque à sa fin. J'ai une dernière petite question subsidiaire qui n'a pas directement à voir avec nos sujets, mais sur laquelle on aimerait bien avoir un retour. On la pose régulièrement dans cette émission. Est-ce que vous avez pu observer depuis la crise sanitaire un afflux de Parisiens ou d'habitants de grosses agglomérations vers des villes moyennes ?
Alors, il semblerait que ce soit plus prégnant sur le marché de l'ancien, puisque les gens ont un projet immédiat. En général, ceux qui décident tout d'un coup d'aller vivre en province, ils ont envie de le faire tout de suite. Sur le neuf, on a un peu plus de demandes. Ça ne se traduit pas réellement par un afflux de clients réservataires. Il y en a peut-être un petit peu plus. Et surtout, ça ne se traduit pas forcément par une inflation complètement démesurée. Les raisons de l'inflation sur les prix, elles sont ailleurs. Elles ne sont pas sur un micro-phénomène de Parisiens éventuellement argentés qui arriveraient et puis qui déstabiliseraient le marché. Ça, faut aussi le noter.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Verpo. L'émission se termine. Un petit mot peut-être de Nolwenn pour conclure.
Non, bah écoutez, effectivement, on ne peut que s'encourager à trouver les moyens de pérenniser ce dispositif qui est vertueux et qui trouve aussi, et on est en train de faire la démonstration, son sens, puisque les locataires, notamment qui peuvent être accueillis dans les logements que nous créons, sont vraiment des locataires de tout type de catégorie sociale. Donc, ça répond à un vrai besoin de maintenir aussi les personnes proches de leur lieu de travail et au plus près de leur lieu de vie.
Merci Nolwenn pour ce mot de la fin. Écoutez, on espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. L'émission est terminée.
Déjà ?
Mais oui, déjà.
Quelle tristesse.
Merci à Nicolas Verpo.
Merci
à Nolwenn Lam Kermarek qui nous écoutait de Bretagne. Merci à la technique, Baptiste Plouchard. On vous souhaite une excellente journée. Et
à vous
puis,
aussi.
On se retrouve très vite,
bon
la semaine prochaine même.
L'hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo, l'application mobile radio.imo et tous les agrégateurs de podcasts.